Les éditions Télém présentent un enregistrement intégral de « Et moi, et moi, et moi » de Jacques Dutronc, lu par Jean-Marc Galera. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende. L'homme qui tua Liberty Valance. Chapitre 1er. Premier cri. J'ai arrêté de croire au Père Noël le jour où, dans une galerie marchande, il m'a demandé un autographe. La guerre et la nuit ne vont pas ensemble. Je déconseille de naître la nuit, en pleine guerre, par exemple. Ça m'est arrivé, c'est une mauvaise idée. C'était en 1943, le 28 avril. Courir dans Paris en bravant le couvre-feu sans laisser passer, ça aussi, je le déconseille. Mais mon père n'avait pas le choix. Madeleine, sa femme, était sur le point de m'infliger la vie. Il a filé demander de l'aide au commissariat le plus proche, et il est tombé sur la commandant tour, le seul bâtiment éclairé. Là, on lui a indiqué le poste de police, qui a envoyé une estafette. J'ai failli naître dans un panier à salade. Finalement, j'ai attendu d'être à la clinique, près de la porte de Champéret, pour pousser mon premier cri. Il était 5h20 du matin. Je n'étais pas le premier enfant du couple. 6 ans plus tôt, mon frère, Philippe, m'avait précédé dans cet emploi. Je n'étais pas non plus le premier Jacques Dutronc. On m'a donné le prénom d'un de mes oncles, le plus jeune frère de mon père. Il est mort au champ d'honneur le 7 juin 1940, les deux jambes arrachées. Avant de naître, j'avais donc déjà ma tombe au Père Lachaise. J'avais pris de l'avance. Cet oncle Jacques était batteur de jazz. Il avait créé son propre big band. Il y avait beaucoup de musiciens chez nous, des organistes, des violonistes. Une de mes tantes était chanteuse soliste. Mon oncle Jean jouait du violoncelle, mon père du piano. Les frères et sœurs aimaient se retrouver tous les dimanches chez leur mère pour des déjeuners interminables. Mes oncles étaient de vrais gargantuas, capables de rester des heures à table, d'engloutir des quantités de bouffe et de vin extravagantes, des pinces du cholestérol. Le tout dans un nuage de fumée quasi opaque. À l'époque, seuls quelques illuminés prétendaient que tout ça nuisait à la santé. À la fin du repas, Jean sortait son violoncelle pour nous infliger la mort du cygne. C'était une torture formidable. Oui, au moment de partir, tout le monde restait encore des heures à parler sur le palier. Ils avaient tous fait de hautes études et avaient eux-mêmes reçu une éducation assez stricte. Chez eux, on ne se plaignait pas, on restait discret, on n'insistait jamais. Il fallait deviner quand quelque chose clochait. Atavisme, il faut aussi souvent deviner ce que je veux dire. Quand j'imagine que l'on m'a compris, je passe à autre chose. Ensuite, je m'étonne de ne pas l'avoir été. Ben, peut-être parce que tu n'as rien dit. Mon père était ingénieur au charbonnage de France. Pendant la guerre, on l'avait affecté à la répartition du charbon. Il contrôlait les ventes chez les bougnats et la consommation dans les boxons. Mais sa vraie passion, c'était la musique. Il était balochard. Il jouait des tangos, des javas, des valses tous les samedis soirs et les dimanches matins dans les bals populaires. C'était tuant. Le lundi, il avait besoin de Maxiton. Ça se passait à la Bastoche, rue de Lappe, au Balageau. Il y avait souvent des soulots et des bagarres. La plus mémorable a eu lieu pendant une nuit du réveillon, juste après la libération, au bal Lafont, rue de la Croix-Nivert. Quand 2 malheureux policiers à bicyclette sont arrivés, ils se sont fait massacrer par les filles à coups de talons. On a dû appeler des renforts. Quand ils jouaient, mon père se déguisait. Il portait un sombrero, un faux nez, pour que les dactylos des charbonnages qui venaient se faire peloter pendant les passodobles ne le reconnaissent pas. Moi aussi, j'ai toujours aimé me déguiser. Sur scène, j'ai souvent porté des perruques, des moustaches, des masques. Quand je n'enfilais pas une soutane, avec des pieds au menton, des boutons que je présentais comme ma braguette. Imaginez l'instrument qu'il y a dessous. Mon père a eu une enfance malheureuse. Orphelin de père, il a été confié à 3 ans à une grand-mère sévère et rigide qui habitait un ancien couvent. Elle l'a logé dans un sous-sol humide et glacial, alors qu'il y avait des tas de chambres inoccupées. Il souffrait du froid. On ne chauffait que dans la partie habitée par la grand-mère. Et il n'était pas question de musique. Elle a d'ailleurs cassé le violon de son propre fils. Même si je pense qu'il aurait voulu devenir musicien professionnel,